Sapris qui va d'où vieux qu'à corbeaux, c'est donc déjà plus fort ton père. Oh mon sapris qui va d'où vieux qu'à corbeaux, et qui joue en moué l'intérêt l'intérêt par terre.
Dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui va commencer avec au programme deux ouvrages, deux ouvrages qui sont parus chez Gallimard. Le premier est écrit par quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission, il s'agit de Colette Fellous. Colette Fellous qui nous revient donc avec quelques fleurs. Et le second, c'est un roman de Caroline de Mulder qui s'intitule La pouponnière d'Himmler, donc des sujets très différents, mais deux ouvrages passionnants à découvrir. On va retrouver dans quelques instants Colette Fellous qui va nous parler donc de ce cheminement au travers de l'existence par le biais des fleurs qui en témoignent. C'est Colette Fellous, c'est quelques fleurs, c'est chez Gallimard et c'est sur Radio Libertaire. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est pour l'émission Idéaux et débats, avec le plaisir de retrouver Colette Fellous pour un nouveau livre qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule « Quelques fleurs ». Alors, moi ce livre m'a beaucoup touchée, ce d'autant plus que la première fois qu'on s'était vu, c'était pour Rosa Gallica.
Ah oui, il y a très longtemps, 89.
Voilà, ce qui remonte à loin maintenant, mais il était déjà question de fleurs. Et
c'est
pour
vrai.
Cause. Et avec ce livre-là, vous continuez de tisser cette toile de fleurs. Et moi, ce livre m'a beaucoup touchée. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs un petit peu comment il est né ?
Il est, en fait, c'est un vieux projet, un projet très ancien, parce que j'ai toujours été accompagné, on peut dire, de fleurs, aussi bien dans mon enfance, enfin accompagné, bien sûr, on est tous accompagnés, mais je veux dire intrigué par la présence des fleurs autour de moi, c'est-à-dire que je les observais depuis petite comme si elles contenaient un secret ou comme si elles devançaient ma vie, comme si elles savaient plus de choses que moi sur ma vie. Et donc, je me disais depuis longtemps, il faudrait un jour que je rassemble toutes les fleurs qui sont dans ma mémoire et qui reflètent un instant de ma vie. Voilà. Et du coup, là, je me suis lancée cette fois-ci parce que je me suis dit, voilà, à l'âge que j'ai assez de recul pour faire un beau bouquet.
Alors. Et, oui, excusez-moi, c'est vrai que ces fleurs, comme vous l'évoquez dans le livre, sont en quelque sorte les témoins silencieux de nos vies et de nos intimités. Mais avant de parler des fleurs, et alors que le chat nous rejoint,
oui.
j'aimerais qu'on évoque le fait que le livre n'est pas d'une urgence, mais en tout cas d'un « comme je voudrais ».
C'est vrai, oui. C'est un... quelque chose qui est toujours là au début d'un livre, c'est-à-dire que je sais pas toujours exactement la matière du livre, mais ce que je sais, c'est que je voudrais quelque chose. Voilà, j'ai envie, c'est comme un désir intérieur. Vous avez raison de dire une urgence parce que j'ai le cœur qui bat plus fort quand je me mets à écrire parce que j'attends comme un rendez-vous d'amour en fait. Un livre, c'est aussi un rendez-vous. On attend. On connaît pas encore peut-être c'est un inconnu. On a rendez-vous avec un inconnu, mais qu'on a presque attendu toute sa vie. On sait que c'est lui qui va nous apporter quelque chose de plus qu'une rencontre ordinaire. Vous voyez, c'est comme les fleurs. Je disais quelqu'un qui connaît plus de choses sur nous. C'est d'ailleurs ça l'amour en fait. Hein. On attend de l'autre qu'il comprenne davantage parce que c'est un regard neuf de choses sur nous et dans les deux sens. Et quand ça marche bien, il y a une urgence en fait et une beauté de ce lien en fait. C'est ça.
Oui.
Donc c'était ça.
Oui, et j'aime bien cette métaphore avec une histoire d'amour, enfin du livre comme une histoire d'amour, parce que c'est un peu ce qu'on ressent aussi à la lecture de quelques fleurs, Colette Fellous, parce que comme pour une histoire d'amour, on y cite des auteurs, des livres, des impressions, des musiques, comme des chansons. Comme une histoire, chaque histoire a ses propres chansons, chaque histoire a ses propres lectures, et c'est tout à fait ça.
Oui, j'ai toujours envie, quand j'écris un livre, que le lecteur ait sa place avant tout, qu'il mette aussi sur le papier, ou dans ses yeux, quand il lit, sa propre histoire. Et c'est parce que mon histoire, je la connais, mais ce que j'aime, c'est quand ça se touche. Vous voyez, quand je laisse ouvert quelque chose, donc quand je mets des chansons ou quand je raconte une histoire, c'est pas simplement parce que j'aime ces chansons et que je connais bien ces histoires, c'est que je voudrais que l'ensemble résonne dans le cœur de l'autre et qu'il fasse son propre livre, en fait. C'est ça aussi la lecture, hein. Quand on lit un livre, on l'écrit aussi en même temps. On est à la fois avec la voix de l'auteur ou l'autrice qui raconte, mais aussi on est soi-même en train d'écrire un livre. Et les livres que j'aime, en fait, en général, c'est ça. C'est quand j'ouvre un livre, il y a une première phrase qui me parle, comme on dit, et je vais la suivre jusqu'au bout parce que je m'y reconnais. Même si nos histoires sont complètement différentes, peu importe. En fait, il y a une grammaire de chaque vie. Il y a une je pense que chaque vie a sa construction, malgré nous, on ne sait pas. Mais quand un livre peut faire surgir cette grammaire intérieure dans les, voyez, du lecteur, ça c'est très beau. Et donc à la fois je dis je, mais c'est aussi quelqu'un d'autre qui parle. Voyez, c'est comme si moi aussi j'étais lecteur ou lectrice de ma propre histoire.
Oui, et puis comme vous évoquez la grammaire et la construction du livre, ce que qu'on peut dire aussi à nos auditeurs qui n'ont pas encore lu Quelques fleurs, donc paru chez Gallimard de Colette Fellous, c'est que ce n'est pas un récit chronologique, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va naviguer de fleur en fleur, d'épisode en épisode, c'est l'espèce de bulle de mémoire comme ça qui éclate dans un parfum de fleurs. Et la première, c'est l'année 1967, avec tout ce que ça va comporter d'événements, de symboliques et d'émotions et de découvertes.
Oui, parce que 1967, c'est vraiment une année charnière pour moi, parce que j'ai passé les 6 premiers mois en Tunisie, les derniers mois en Tunisie. Je suis née en Tunisie et j'allais donc faire mes études après le bac à Paris. Et donc, les 6 derniers mois, elle est vraiment coupée en deux et elle résume toute ma vie, c'est-à-dire la mémoire ancienne, disons, de ces 6 mois, mais de toute la vie que j'ai vécue là-bas. Et les 6 mois à Paris, qui sont aussi les années à venir, vous voyez, que voilà, je vis à Paris depuis ce temps-là, et c'est vraiment une joie pour moi de retrouver en écrivant cette impatience d'abord de découvrir un autre pays qui est le mien, puisque c'est ma langue, hein, le français a toujours été ma langue française, donc j'appartenais à un pays que je connaissais pas. Mais qui était là en moi à travers les livres, à travers la langue bien sûr, et à travers les rêves. Je projetais comme ça. Je dis dans le livre que Paris pour moi c'était vraiment. Je pensais que ça avait l'odeur de la violette. Vous voyez, je croyais que tout avait un parfum de violette. Et puis je croyais surtout que tout le monde était poète, libre, envie de refaire le monde, et ça tombait bien parce que après je suis tombée en 68, donc j'ai un agenda d'ailleurs, un petit agenda qui est tout petit, qui est là, je peux vous le montrer même si c'est, voilà, il est là, tout petit, ouais. Et il y a cette année 67, donc oui. Quand je l'ai retrouvé, et il y a vraiment tout, c'est incroyable parce que je notais presque très en style télégraphique ce que je faisais, mais il y avait tous les cafés, tous les rendez-vous, des noms que j'ai complètement oubliés, d'étudiants, d'amis, tous les films que j'ai vus, et j'étais une étudiante à la Sorbonne très très avide de savoir, et les livres me donnaient un bonheur déjà, et en fait je m'aperçois que j'ai toujours vécu finalement dans les livres et dans la joie de partager.
Chaque jour avec un goût de miel. suis devant la porte de la taverne où tu ne viendras plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus.
Et on a l'impression que tout naît à ce moment-là, tout ce qui va constituer votre ossature future, puisque quand vous arrivez, c'est l'été 67, alors il va y avoir un séjour familial, les lecteurs découvriront, mais il va y avoir aussi un passage par le Festival d'Avignon. Et, oui. Et donc, ça va être la découverte du Festival d'Avignon, des débats, des pièces, de Godard, de tas de choses. Et puis après, vous allez aller à Paris, à l'Hôtel des Grands Hommes, ce qui est quand même pas neutre. Et étudiante à la Sorbonne. Donc là, tout se positionne d'une certaine manière.
Oui, je ne me rendais pas compte. C'est aujourd'hui, on se rend compte après coup, en fait, des choses. Je ne me rends pas compte qu'il y avait tous les éléments de ma vie déjà en gestation, et enfin que je vivais au présent. Mais habiter à l'Hôtel des Grands Hommes, pour moi, ce n'était pas extraordinaire, parce que c'était un petit hôtel. Maintenant, il est devenu luxueux, mais c'était un petit hôtel. Je me souviens des escaliers, il y avait de la moquette sur les escaliers rouges, mais très usés. On entendait les ébats des voisins. Enfin, il n'y avait pas une sonorisation vraiment très mauvaise. Mais quand on ouvrait la fenêtre, on était direct sur le Panthéon. Et puis, on était dans une époque, enfin, moi en tout cas, avec mes amis, on était assez surréalistes. On aimait le surréalisme encore. Donc, on faisait tourner pas les tables, mais un verre, tourner les verres, et on appelait tous les gens, tous les poètes. Rimbaud, veux-tu venir? Oh ben, passe-moi Voltaire. et on s'amusait beaucoup, mais on y croyait qu'à moitié. On y croyait qu'à moitié, mais c'était merveilleux. Je me souviens de nuits d'été, justement, avec la fenêtre ouverte, ce Panthéon avec les grands hommes, et nous, tout petits, mais avec une envie de vivre extraordinaire, vous voyez, et puis de rêver, de mêler le rêve et la réalité. J'ai toujours été un peu comme ça. Je mêle, voilà, l'art, la culture, à la vie quotidienne. Il n'y a pas vraiment de frontières. Et encore maintenant, je vis un peu comme ça.
Alors, Quelques fleurs, c'est aussi l'histoire d'une famille, parce que les fleurs sont présentes dans cette famille. Alors, on va évoquer deux pans. On va évoquer Maison Fleurie, une construction du grand-père. Et puis, Quelques fleurs, c'est aussi un parfum. Et c'est le premier parfum de la mer, avant l'heure bleue. Voilà. Oui,
très précise, c'est merveilleux. Vous avez très bien lu.
Oui. Puis c'est quelque chose qui revient dans vos livres. Donc, ça, c'est agréable aussi de retrouver ces fils rouges. Alors, on va commencer par parler de ce qu'est cette maison fleurie.
Oui, parce que quand je vous disais que j'avais envie de scander comme ça, de rassembler tous les bouquets de ma vie, je me suis aperçue qu'au fond, il y avait comme un géant dans ma mémoire qui était un immeuble qui s'appelait justement Maison Fleurie. C'est mon grand-père qui voyageait beaucoup. Bon, il est né en 1865, on dirait vraiment un ancêtre, mon arrière-arrière-grand-père, mais c'est juste mon grand-père. Et il est mort en 1925, mais déjà en 1900, il voyageait beaucoup en Europe. Il était vraiment très très curieux aussi du monde. Et je pense que j'ai un peu hérité de sa curiosité et de voyager. Et il a voulu faire construire un immeuble en plein centre de Tunis. Et il a appelé Maison Fleurie, c'est-à-dire qu'au dernier étage, il y a dans la pierre ancrée comme ça Maison Fleurie. Et ma mère l'appelait toujours. Moi, j'avais pas vraiment vu ces lettres quand j'étais petite, mais ma mère l'appelait Maison Fleurie. On va voir tante Hélène à Maison Fleurie, vous voyez. Elle habitait petite là, mais nous, on habitait un peu à côté. J'ai pas grandi dans cet immeuble, mais c'était un immeuble uniquement pour la famille. C'est-à-dire qu'il y avait tous les oncles, les tantes, les cousins à chaque étage. Et c'est rare, ça. Enfin, moi, j'avais pas tellement vu d'autres immeubles comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, au fond, cet immeuble, il a été témoin aussi, comme un bouquet peut être témoin d'une scène dans votre chambre ou dans votre jardin ou dans votre pièce. Eh ben, lui, il a été témoin dans la ville. Parce que d'abord, il est encore là, alors que toutes les familles qui étaient là ont disparu et ne reviennent pas forcément, même si moi je reviens toujours en Tunisie. Et il a été témoin d'une histoire, vous voyez, de 100 ans en fait. Bon, il a été construit en 1900, enfin il a été fini de construire en 1925 et il est toujours là. Et j'aime beaucoup parce que la photo que j'ai mise dans le livre de cet immeuble, elle est faite par un jeune photographe tunisien. Qui s'appelle Jaziri et qui sur Facebook et Instagram il se nomme par son nom, mais aussi je vois ce que je veux et j'aime bien parce que il a attrapé au dernier étage comme ça ses lettres Maison Fleurie et j'aime que ce soit un jeune d'aujourd'hui qui ait compris que cet immeuble avait quand même était quand même incongru et était témoin d'une histoire qui échappe maintenant aujourd'hui dans la ville. Et quelques fleurs, c'est aussi, vous avez raison de les nommer ensemble, parce que le point de départ du livre, quand je dis comme je voudrais, c'était aussi ça. C'était aussi, je voudrais faire revivre toutes ces fleurs qui ont assisté à une histoire à la fois personnelle et collective. Collective, c'est Maison Fleurie. Parce que d'abord c'est l'histoire de ma famille, mais aussi de tous les passants qui ont vécu, toutes ces générations qui ont vécu et passé sous les arbres en bas sans voir qu'il y avait les lettres là-haut, et aussi le parfum, quelques fleurs qui étaient le parfum de ma mère avant l'heure bleue, c'est vrai. Et pour moi, ce parfum, j'étais petite, hein, j'avais 5-6 ans, c'était vraiment, il était tellement majestueux, il m'emmenait en voyage déjà, je trouvais que ma mère, que c'était le secret de ma mère, parce qu'un parfum pour un petit, c'est d'abord pour tout le monde, mais surtout pour un petit un enfant qui regarde sa mère comme si elle était une reine, voilà, il garde toute la mémoire de l'amour aussi et du désir et surtout que ma mère aussi avait des périodes tristes, donc quand ce parfum arrivait, elle était un peu bipolaire, donc quand ce parfum arrivait, c'est qu'elle allait mieux et qu'elle pouvait mettre des robes de soie, et sinon elle était vraiment au lit, un peu sale, elle se lavait plus, elle mangeait plus. Donc vous voyez, pour un enfant, ce parfum, c'était le signe de la guérison, de la vie, du dehors, et j'imagine aussi qu'il me faisait, parce que quand j'y pense, qu'il me faisait rêver et partir aussi loin, un peu partout, et c'est, oui, c'est ça un parfum. En fait, les parfums, les fleurs, mais aussi les chansons, ce sont des objets, des guides de mémoire, des aimants, hein, qui sont là et qui vous font revivre un instant en trois notes de musique ou en trois respirations de...
Oui, c'est à chaque fois, c'est unique. Ce sont des histoires uniques.
do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just booked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers. Read them good and well. Pretty people, nervous people. People have got to sell. Just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Mais ce qui est intéressant et ce qui m'a, dans les images qui m'ont frappé aussi entre, de rapport entre votre mère et Maison Fleurie, c'est qu'elle est devenue orpheline étant enfant.
Oui.
Et à partir du moment où elle s'est retrouvée donc seule orpheline, elle est restée dans cette Maison Fleurie, mais elle s'est mise à naviguer d'un étage à l'autre suivant qui l'accueillait dans la famille pendant une période donnée. Et cette errance dans un lieu unique comme ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très particulier.
Oui.
D'avoir toujours la même adresse, mais avec une ligne de flottaison variable.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça qu'elle répétait « on va à Maison Fleurie », parce que pour elle, c'était un peu sa bouée aussi, parce qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 8 ans et son père à l'âge de 13 ou 14 ans. Et 13 ans, je crois. Et on s'attache pas assez en fait à l'enfance de nos propres parents. On les voit que parce qu'on est habitué, on sait, mais on pose peu de questions souvent sur bon s'ils nous racontent, mais là tout à coup en écrivant ce livre, bon je savais qu'elle avait été orpheline très tôt, mais je l'ai pas ressenti moi-même dans mon corps. Mais en écrivant le livre et en faisant la faisant réapparaître dans cet immeuble, j'ai compris ce qu'était un petit enfant comme ça de 12 ans, 13 ans, qui tout à coup, son père est mort d'un coup. Hein, il l'avait emmené à Venise avant, il était... Vous voyez, il adorait ça. Moi, j'ai des cartes postales d'Allemagne, d'Autriche, d'Alsace, où il l'envoyait des petits mots comme ça qui faisaient rêver pour un enfant. Et d'ailleurs, il mettait l'adresse, il mettait son nom, il mettait d'abord... Petite avant 1925, elle était à la Marsa, et il mettait juste la Marsa, North Africa. Vous voyez, même pas Tunisie, même pas d'adresse, rien du tout, et la carte arrivait, c'est incroyable.
Magique.
Un tout petit village, la Marsa, qui est près de Tunis. Et du coup, je la vois errer, comme vous dites, un jour, elle passait une semaine chez une tante, une autre semaine chez une autre. Et elle s'est jamais plainte de ça. Mmh. Elle disait toujours c'était beau Maison Fleurie, voyez. Mmh. Mais je pense que c'est des cicatrices qu'elle a eues et que si elle a été malade après, c'est aussi parce qu'elle a eu beaucoup beaucoup de deuil aussi. Elle a perdu de tous ses frères et sœurs parce qu'il y avait des maladies. Il n'y avait pas encore d'antibiotiques vraiment, le typhus, le je sais plus des fièvres terribles qui faisait mourir les enfants et donc ça moi elle m'a prise souvent pour sa mère en fait. Mmh. Comme j'étais la seule fille dans la famille, elle me confiait des choses et elle m'appelait ma petite maman ou ma petite mamie, vous voyez, c'est et j'ai aimé jouer ce rôle en fait.
Oui, mais c'est intéressant dans le livre parce que en fait, on a cette petite fille qui est orpheline qui va naviguer d'étage en étage dans sa tristesse, dans son choc comme elle va le dire, et puis il y a cette autre petite fille que vous êtes auprès d'elle qui est malade. Et là, il y a une confusion de qui sont les enfants, qui sont les parents, et c'est presque des poupées russes toutes ces petites filles qui se présentent.
D'ailleurs, je me sens encore comme elle avait gardé. Je me souviens à un moment un anniversaire, elle avait 77 ans. Et j'avais apporté un gâteau et elle avait un peu flotté, sa mémoire était un peu vacillante. Et je lui ai dit, tu te rends compte, tu as 77 ans. Et elle voulait pas me croire. Elle me disait, mais comme ça a passé vite. Et elle avait gardé cette fraîcheur d'enfance, ces fous rires, vous voyez, elle était, et je pense que moi aussi, je suis à la fois l'enfant que j'étais, je le garde précieusement, cette enfance en moi, je la garde précieusement, mais je suis aussi l'enfant qu'a été ma mère. Mmh. Et parce que ça, et vous avez raison, il y a une confusion presque de rôle, parce qu'elle n'a pas été complètement, à part l'amour qu'elle m'assurait, en fait, elle m'a pas tellement, elle s'est pas tellement occupée de moi, c'est plutôt mon père qui s'occupait de moi, mais elle, quand elle allait mieux, elle s'occupait, mais en faisant des gâteaux, en mettant de la musique, justement, oui. Jusqu'à 2 heures du matin, un peu trop, mais j'ai grandi en essayant de pas lui montrer, pour ne pas l'accabler encore plus, de ne pas lui montrer ma tristesse. Parce que j'étais un peu quand même, oui, je me souviens, j'allais à l'école avec la queue de cheval, je la faisais moi-même, elle était un peu sur le côté, j'étais pas très bien coiffée, je mettais un peu n'importe quoi comme vêtement parce que j'étais un peu vouée à moi-même, et je voulais pas lui dire, alors je faisais toujours la fille de bonne humeur, alors ça va aller, tout très gai. Mais au fond de moi, j'étais pas si gaie, quand on me disait comment va ta mère, parce que les parents de mes copines le savaient, comment va ta mère, j'arrivais pas à répondre, vous voyez, j'avais les larmes qui venaient, j'essayais de les refouler, je disais ça va, mais c'était pas, ça n'allait pas en fait.
Oui, c'était une, être dans l'adaptation, ne surtout pas faire de bruit, ne surtout pas faire de vagues, être une bonne élève, rien qui accroche en fait.
Qui accroche, parce que c'est je voyais bien qu'elle souffrait, que c'était dur et que je pouvais rien faire. J'essayais juste de montrer que ça allait quand même. J'arrivais à et que mais c'est seulement maintenant que je m'aperçois que, parce qu'on m'a toujours dit, oh oui, mais toi, t'es toujours gay, c'est formidable, t'es jamais triste et tout, ce qui est assez vrai. Mais à l'intérieur, ça a été un combat. Vous voyez, ça a été un combat aussi et j'ai gardé enfoui cette mélancolie, disons, cette tristesse et cette. Mais c'est intéressant de voir comment les choses des parents vous traverse et pendant des années et des années. Parfois, ça reste blotti comme ça, on n'est pas sûr, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, un jour, on s'aperçoit que oui, en fait, vous portez vos parents. Vous portez vos parents, vous portez leur fatigue, vous portez leur exil quand il y en a. Alors que moi, quand je suis partie de Tunisie, j'étais pas du tout exilée. Je me sentais tellement heureuse aussi d'affronter une nouvelle. Mais aujourd'hui, je me dis, mais au fond, c'est leur exil à eux que j'ai quand même à l'intérieur, vous voyez. Mais bon, quand on écrit, on arrive à mettre en mouvement tout ça et ça va.
Oui.
On le supporte.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye. Take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow.
all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Et puis ce livre, donc Quelques fleurs de Colette Fellouz, paru chez Gallimard, à propos de la famille, pose la question aussi de qu'est-ce qui fait famille. Parce que j'ai trouvé ça très touchant aussi. À un moment, votre fille va vous proposer de faire un test génétique pour être sûre.
Oui, c'est trop bizarre.
C'est quand même très... que vous êtes sa mère. Donc, de cette anecdote déjà très, très, très touchante, va naître une autre histoire de parenté.
Oui, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment que les fleurs tracent le fil d'une vie, parce qu'il y a aussi parfois la surprise d'une vie. Et là, c'était le test ADN. J'ai pas compris pourquoi elle doutait de moi, en fait. Parce qu'en général, on doute du père.
Oui.
Mais de la mère, c'est rare. Puis elle m'a regardé, on va faire un test. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de photos de moi enceinte. J'en ai une. Mais pourtant, j'en ai aussi à la maternité. Mais elle les voit pas, sans doute. Ou je sais pas. Ou elle a cru qu'elle avait été adoptée à la maternité. Enfin, je sais pas trop. Mais j'en ai pas parlé, ça me faisait sourire. Et par ce test, j'ai découvert un neveu ou un frère. C'était les mêmes pourcentages. Il y avait écrit supposé neveu ou frère. Voilà. Demi-frère. Et du coup, c'est extraordinaire, parce que c'est comme si votre vie, vous avez raison, c'est on sait pas en fait ce qui fait famille, ce qu'on est, est-ce que nos parents, on se pose cette question aussi quand on est enfant, est-ce que ce sont nos vrais parents, est-ce que c'est moi je me souviens, j'avais une voisine qui est en Tunisie, on avait appris à un moment qu'elle avait été adoptée. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais peut-être que moi aussi, il est adopté. Qui me prouve? Bon, il n'y avait pas les tests. Et puis, bon, je voyais bien quand même que je ressemblais. Mais c'est une question qu'on peut se poser. qui on est, d'où on vient, est-ce que vraiment c'est nos parents, et qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est obligé d'aimer ses parents, est-ce que les frères et sœurs, est-ce qu'on se ressemble, non, pas vraiment, pourquoi un devient comme ça et l'autre tout à fait le contraire, alors qu'on a eu la même éducation, c'est vraiment des questions qui valent la peine d'être posées, je trouve. Et donc, par ce test, j'ai trouvé un frère, enfin, pas un frère, un neveu, parce que j'ai vite éliminé le frère parce que mon père n'était pas du tout là. Et c'était une conception, il est né en 69, donc la conception de ce garçon était en 68, justement, en août 68. Et avec lui, on s'est vite appelé et il m'a dit, mais oui, je comprenais pas comment on pouvait être... famille. Et il m'a dit, oui, c'est possible parce que, justement, je cherche mes origines, parce que j'ai été adoptée, bébé, mais en fait, je sais pas d'où je viens. Donc, on a parlé, il y avait un lien, tout à coup, qui était très fort, alors qu'on se connaissait pas, qu'il avait 50 ans, et au téléphone, déjà, c'était magnifique parce qu'il déposait son histoire, il m'a tout raconté, comme ça, en une demi-heure, toute sa vie, comme s'il fallait que, voilà, que je comprenne qui il était. Et mais après, comme j'avais 4 frères, c'était compliqué de savoir le fils de qui il était. Mais bon, j'ai éliminé 2 frères. C'est compliqué à expliquer, mais dans le livre, je le raconte. Et après, c'était entre les deux derniers vivants. Et finalement, il m'a envoyé les photos et j'ai compris que c'était le fils de voilà d'un frère. Et qui lui ressemble beaucoup. Et c'est une histoire comme ça qui a surgi dans ma vie et qui a prolongé. Je me suis dit, voilà, je vais le faire entrer dans Maison Fleurie parce que c'est sa famille.
Il a sa place.
C'est ça, c'est drôle. Allez, on le met aussi dans Maison Fleurie. Et bon, l'histoire a continué après parce qu'il a mis un détective génétique, je savais même pas que ça existait, sur l'affaire. Et il a retrouvé sa mère. Et du coup, par ce détective, on a retrouvé sa mère qui a raconté qu'elle avait 16 ans quand il y a eu cette histoire, et mon frère avait 22 ans. Mais c'était flou pour elle, elle savait même pas le prénom vraiment, mais elle l'avait vu pendant un mois. Et voilà, mais elle a dit, mais il a jamais su que j'étais enceinte parce que après je l'ai perdu de vue. Vous voyez, donc mon frère, il avait jamais eu de fille ou de fiancée enceinte. Donc il y croyait pas. Quand je lui ai dit mais si tu as un fils, il y croyait pas et puis il allait pas bien. Donc ils se sont pas vus et lui-même est mort quelques mois après, 6 mois après. Mais je garde avec ce neveu là il a lu le livre aussi. Il est très heureux de savoir enfin d'où il venait. Mais il parle pas beaucoup. Il est à la fois impressionné d'avoir trouvé parce que en fait même s'il était c'était douloureux pour lui de ne pas savoir, je pense qu'il y avait une attente, il y avait toujours un rêve. Et là tout à coup il a les deux, il sait les deux. Je crois qu'il est un peu choqué aussi et que il faut attendre. Peut-être que je sais pas. Ça peut être parfois aussi un choc hein, de trouver vraiment.
Tout à fait.
Ce qu'on avait laissé ouvert. Et donc, c'est compliqué. C'est même pour lui, je pense que c'est compliqué. Mais on s'aime beaucoup et voilà, on sent. C'est très, très prenant et je trouve que voilà, le livre, c'est aussi ça. Il est parsemé comme ça de fleurs qui ressuscitent des moments d'une vie. Mais c'est aussi une histoire de génération. Vous voyez, le grand-père, la mère. La grand-mère, enfin les et jusqu'à des nouveaux qu'on n'avait pas prévus, voilà. Comme si dans un jardin il y avait des fleurs qui poussaient, on les a pas plantées, mais elles sont là, elles font partie de notre jardin et on les trouve encore plus belles que les autres.
Ça fait un joli bouquet.
J'ai ça aussi dans le jardin. Je trouve des fleurs, je me dis mais elles sont sorties d'où celles-là ?
D'où elles viennent ? Ça s'appelle donc « Quelques fleurs », c'est de Colette Fellous et c'est paru chez Gallimard. Il y a plein d'autres choses encore dans ce livre. Il y a des histoires aussi d'inconnus, de femmes qui attendent dans un hôtel, d'hirondelles qui voyagent, d'une carte de fête des mères. Mais on va vous laisser découvrir tout ça. Parce que c'est riche. Bien sûr, il y a le Japon aussi, mais ça, c'est aussi un de vos fils rouges que je partage. En tout cas, lisez Quelques fleurs. Merci, Colette Fellous, en tout cas, pour ce livre et pour cette rencontre. Et puis, j'espère, à une prochaine fois.
Oui, merci beaucoup, Alexandrine. J'aime toujours la précision de votre lecture. Et puis, vous voyez aussi les liens qu'il y a avec les autres livres. Et ça, j'y tiens beaucoup, moi, à ce fil. C'est comme si c'était un seul livre et que chaque livre est un chapitre d'une histoire qui peut être infinie, en fait. Chacun porte une histoire infinie en lui. Alors, ou en elle.
Suite au prochain chapitre. Merci beaucoup, Colette.
Merci à vous.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire et c'était donc Colette Fellous qui nous parlait de Quelques fleurs, son dernier livre paru chez Gallimard. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Caroline de Mulder pour son roman intitulé La pouponnière d'Himmler qui est également paru chez Gallimard. Et c'est un livre que je vous recommande. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de rencontrer Caroline de Mulder pour un roman qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule « La pouponnière d'Himmler ». Alors moi, je vous avais découverte avec « Manger Bambi » qui était paru également chez Gallimard, mais polar noir. Et là, on est dans un ouvrage complètement différent. Donc déjà, je trouve ça assez admirable de pouvoir passer d'un style à un autre comme ça. Et je voulais vous demander, pour commencer, comment vous était venue cette idée d'aborder le sujet des pouponnières d'Himmler, du Lebensborn, parce que c'est un sujet dont on parle pas très très souvent. Et ça peut paraître austère, mais en fait, ça fait un roman absolument formidable.
Merci. Alors c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, moi, elle me hante en fait depuis l'adolescence, mm-hmm. en fait depuis que je connais ce qui s'est passé, et j'avais envie d'aborder ce sujet-là, mais de l'aborder sous un angle différent, qui est celui des femmes, parce qu'en réalité, on a beaucoup parlé, y compris des officiers SS, mais le rôle de la femme dans tout ça, que se passe-t-il du côté féminin? Donc j'avais envie d'aborder ça, et puis aussi ce qu'on connaît un peu moins, on connaît tous les camps de la mort, mais il y avait aussi des camps de la vie. Évidemment assez mortifères en soi, mais qui sont l'envers d'une même réalité. Parce que en fait, il s'agissait moins de supprimer ou pas seulement de supprimer. Il fallait remplacer. Donc l'idée était de remplacer, de supprimer les populations, les éléments indésirables, et de les remplacer par des éléments désirables, ariens, ou, pour reprendre une expression de l'époque, de sang pur, du meilleur sang.
Alors, la pouponnière d'Himmler, comme son nom l'indique, se passe dans un de ces endroits où des femmes sont accueillies pour donner naissance à l'édite future. Mais vous avez choisi, Caroline de Mulder, de placer le début de l'action à un moment précis qui est la fin de la guerre.
Oui, parce que c'est ce moment-là qui est particulièrement intéressant. Donc les Lebensborn, dont je décris d'ailleurs le quotidien, hein, qui est
oui,
très renseigné, très documenté.
On va en parler, oui, oui.
Le quotidien immuable de ces foyers du Lebensborn, de ces maternités, était assez ennuyeux. Ce qui est intéressant, c'est que se passe-t-il au moment où la ligne de front allemande recule et où les autres Heime, hein, parce qu'il y en avait une quarantaine en Europe, les autres Heime sont évacués, les femmes, les enfants, tous vers l'Allemagne et tous, finalement, vers le Heim Hochland, qui est la première et la dernière de ces maternités. Et là, tout se déglingue, tout commence à s'effondrer. Et il y a une prise de conscience qui commence à se faire chez certaines de ces femmes, notamment chez le personnage de l'infirmière, Helga, qui est persuadée, en tout cas au début du roman, d'être du bon côté, hein, du côté où on soigne les enfants, on soigne les bébés, on s'en occupe très bien. Et puis petit à petit, elle commence, à mesure que les choses s'effritent, s'effondre, elle commence à prendre conscience. C'est ce moment-là, je trouve, c'est cette fin de la guerre, le moment où tout ce système, où le système s'effondre, où en fait l'effondrement met à nu le cauchemar que ces pouponnières ont toujours été, malgré le cadre idyllique, malgré le fait qu'on continuait à y manger tellement, à y manger très bien jusqu'à la fin de la guerre, hein, au moment où tout le monde crevait de faim, y compris en Allemagne. C'était des endroits très privilégiés, très harmonieux. À la fin de la guerre, on revient à la réalité de ce qu'était vraiment tout ça.
Alors, c'est vrai qu'au début, ce Heim est un endroit, j'allais dire, c'est vraiment une usine à bébés, quoi. Tout y est parfait, tout y est en ordre, hygiénique, sain. Tous les critères sont réunis. Il faut aérer, il faut faire entrer la lumière, il faut manger équilibré. Et moi, j'ai été particulièrement sensible, Caroline de Mulder, dans ce roman, La pouponnière d'Himmler, paru chez Gallimard, au soin du détail, au fait que vous avez fait un travail de documentation important, ça se sent, mais ça apporte tellement de vérité, tellement de force au roman que c'en est vraiment troublant. Les menus, le programme du jour, les bénédictions du nom, enfin, tout est extrêmement détaillé. Moi, j'ai découvert tout ça parce qu'on connaît le programme dans son principe général, mais on n'en connaît pas les détails et vous nous les amenez.
Sur un sujet pareil, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de vraies recherches. Il y a beaucoup de choses, d'essais, d'ouvrages de référence qui ont déjà été écrits sur le sujet, principalement en allemand. Et donc, il a fallu s'imprégner de tout ça. Je trouve qu'on ne peut pas faire l'économie de ces recherches-là, de cette étude-là. Ensuite, la vraie difficulté pour moi, ça a été moins de lire et de m'imprégner de cette documentation qu'ensuite de réussir à en sortir pour entrer dans le romanesque. Ça, c'était le vrai défi, parce que c'est un roman, évidemment. Donc, il fallait que ça soit à la fois entièrement réel et réaliste, mais aussi entièrement imaginé. Mais ce que vous décrivez, d'ailleurs, effectivement, je me suis un peu penchée aussi sur la pédagogie nazie, parce qu'il y en avait une, que j'aborde d'ailleurs dans le roman, comme vous dites, l'hygiène, le soleil, le plein air, tout ça, ça faisait partie de cette pédagogie qui était évidemment aussi très présente dans les maternités. Maternité qui était par ailleurs des orphelinats, donc il y avait les enfants qui naissaient de femmes enceintes de SS, et à côté de ça, il y avait aussi des enfants enlevés un peu partout en Europe et qu'on amenait là pour qu'il y ait justement plus d'enfants et plus d'éléments désirables et germanisables comme on souhaitait le faire.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Alors justement, puisque c'est un roman, Caroline de Mulder, il y a des personnages et vous allez nous parler de ce lieu, de cette politique, de ce qui va se passer au travers de trois personnages. Et moi, j'ai été particulièrement intéressée aussi par ça. La première est une Française, la seconde est une infirmière qu'on a commencé à évoquer, Helga, et puis il y a un homme. Il y a un homme, enfin, qui est plutôt une espèce de fantôme qui va prendre du poids et de l'importance au fur et à mesure du roman. Mais ces personnages ne sont pas choisis au hasard parce que, on va commencer par la Française, Renée, qui se retrouve là après avoir eu une histoire d'amour avec un soldat allemand, Arthur Feuerbach. Et bah, bien sûr, ça ne se fait pas en France. Donc, elle a été capturée, elle a été humiliée, elle a été tondue. Enfin, tout ce qu'on peut faire d'horrible à l'époque en France aux femmes qui ont eu une histoire d'amour avec un soldat allemand. Et elle se retrouve dans cet endroit, en Allemagne, après un passage par la Morlaix, où elle ne parle pas la langue, où elle est différente des autres, parce que ce n'est pas une femme mariée, ce n'est pas une femme d'officier SS. Et on va comprendre tout de suite la difficulté qu'a cette femme qui est seule, qui est perdue, qui n'a pas possibilité de parler, de s'exprimer, qui est traumatisée. Et on voit aussi également les différences entre les pensionnaires, entre guillemets, du Heim.
Oui, oui, il y a donc ce personnage de René qui fait partie de ces tondus de 1944 et qui passe d'abord par le seul Lebensborn français qui était dans le manoir du Bois Laris près de Chantilly. Mm-hmm. Donc elle y passe brièvement. Ce Lebensborn français est évacué le 7 août 1944.
Pour l'Allemagne.
Vers l'Allemagne. Comme tous les Heim, d'ailleurs, qui sont évacués au fur et à mesure et dont les pensionnaires sont redirigés vers l'Allemagne. Ce personnage de René, c'est le point de vue naïf. C'est quelqu'un qui débarque, qui se dit, mais c'est... alors, elle est rejetée de sa famille. Elle arrive là et il y a ce côté un peu idyllique. Des pouponnières quand on débarque et qu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Belle demeure, jolie chambre,
on mange bien,
nourriture abondante, horaires réguliers,
musique.
Oui, et c'est d'ailleurs c'est un des points de départ de ce livre. Il y a cette image d'ailleurs assez connue où on voit une rangée de berceaux drapés de blanc à l'extérieur devant une belle demeure. Et sous le drapeau noir SS qui fait contraste, et il y a une sorte de contraste esthétique extrêmement frappant, parce qu'évidemment, la réalité de ces lieux qui ont l'air idylliques, c'est qu'ils sont situés, qu'ils sont situés à quelques dizaines de kilomètres de Camp de la Mort, de la ligne de front et de la mort tout court. Et voilà, donc Renée, elle débarque et elle découvre, sans réellement comprendre les enjeux de tout ça.
Oui, et elle va découvrir, elle va déjà, et c'est un détail qui montre l'importance de l'alimentation, parce que c'est quasiment de l'élevage, entre guillemets. Ses premiers mots d'allemand, ça va être les mots des menus. La soupe, la compote, le fromage, parce que c'est ce qui est important. D'ailleurs, il y aura une visite, je ne sais plus si c'est Himmler ou autre, qui va demander à ce qu'il y ait du porridge tous les matins. L'alimentation est tellement, ça fait tellement vache laitière, excusez-moi, mais c'est vraiment ça. On est dans l'élevage de la future race, quoi.
C'est tout à fait ça, et il faut savoir que Himmler, c'est Himmler qui était derrière ce programme
hein, oui.
Qui était le concepteur du programme, qui était d'ailleurs obsédé par la question du réarmement démographique, mais aussi par le fait de ramener le sang allemand à sa pureté originelle. Et Himmler était effectivement obsédé, il consultait les menus, il était très désireux que les mères et leurs enfants consomment du porridge comme les Anglais, qui étaient une sorte de modèle arien vers lequel on devait tendre. Et d'ailleurs, les mots d'Himmler, alors il ne les dit pas, mais il les a écrits. Donc de ce point de vue-là, j'ai pris
c'est véridique.
Oui, c'est véridique. Mais bon, j'ai au lieu de les mettre dans une lettre, il est dit dans un dialogue qu'il a avec le docteur Ebner, qui était donc le médecin en chef, responsable médical de tous les Heim, qui était d'ailleurs le médecin de famille,
oui, personnel,
de Himmler. Et ça, c'est un personnage que je n'ai pas du tout inventé, lui non plus.
Alors, ce qu'il faut préciser à propos de Renée, c'est qu'elle est française et qu'elle est admise dans ce lieu. Elle est admise dans ce lieu parce que, déjà, le père de l'enfant a fait un mot qu'il lui a remis pour qu'elle puisse rentrer, et puis parce que elle a été examinée sous toutes les coutures, mesurée sous
Exactement,
toutes les coutures,
ouais.
Et elle remplit les fameux critères.
Oui, donc il y avait toute une série de critères qu'on retrouve d'ailleurs. Donc il y avait évidemment la couleur des yeux et des cheveux, mais aussi la taille, mais aussi la proportion du nez par rapport au menton. Donc on mesurait vraiment ces femmes et ces enfants sous toutes les coutures. Et il y avait une note pour chaque critère. Là encore, je n'invente rien. Ça se passait réellement de cette manière-là.
Alors,
il y avait des examinateurs de race,
oui,
qui s'occupaient de ce genre de choses.
Alors, le lecteur découvrira cependant que l'égalité ne règne pas au sein de cette pouponnière, parce que certaines ont des places plus précises que d'autres, mais on va pas tout dévoiler. Donc ça, c'est le premier personnage, c'est Renée. Et puis, le personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de l'infirmière, Helga. C'est une jeune femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, et ça a son importance parce qu'elle aura droit à des remarques en permanence sur le fait qu'il faut faire des enfants, il faut, voilà, on va taxer les célibataires de toute façon, hommes, pour les
hommes.
La fameuse taxe, effectivement, pour inciter à se marier et à se reproduire. Et c'est une femme qui a sa conscience professionnelle, entre guillemets. Alors, on voit aussi que, suivant le type d'infirmière, il y a différentes typologies aussi, différentes appartenances, et il y a des rivalités internes, mais en tout cas, elle se retrouve là. Elle est l'assistante du médecin, c'est une femme dévouée, et on va la découvrir entre autres au travers de son journal. Et j'ai trouvé ce choix d'écriture absolument passionnant, parce que montrer le journal d'Helga, ça permet de voir ce qu'elle écrit et ce qu'elle rature.
Oui.
Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Oui. Effectivement, ça a été le deuxième défi pour l'écriture de ce roman, c'était de trouver justement un style et une manière d'écrire les choses. Parce qu'on n'écrit pas la pouponnière d'Himmler comme on écrit Manger Bambi.
Non.
Donc, il y a une sorte de sobriété dans l'écriture qui s'est imposée à moi. Mais j'ai dû chercher quand même pour trouver un style qui soit à la fois sobre sans être plat. Ça m'a pris pas mal de temps. Et ce journal d'Helga, d'ailleurs, j'ai dû le réécrire. Et oui, donc ce journal permet de raturer. Il y a la pensée qu'on peut avoir et puis celle qu'il faut éviter. Il faut éviter de se poser trop de questions, il faut éviter la sensiblerie, il faut éviter de, surtout de remettre en cause ce système qui est un système totalitaire. Oui, et ça permet aussi d'être à l'intérieur de ce personnage d'infirmière nazie. C'est ça l'avantage d'être romancier par rapport à un historien qui aurait aussi pu, enfin, qui a d'ailleurs, ça a déjà été étudié par les historiens. L'historien reste à l'extérieur. Le romancier, lui, il va à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur des personnages, à l'intérieur des mots. Et c'est à l'intérieur que le romancier essaye aussi d'entraîner le lecteur.
Ich werde um mich die brave Mutter.
Oui, et ce chemin intérieur, on va le découvrir au travers des écrits d'Helga. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment ce personnage va évoluer. Et j'allais dire l'un des premiers éléments qui vont l'amener à se poser des questions, c'est qu'un nouveau-né va naître dans une pouponnière, c'est relativement normal. Sauf que celui-là, il est un peu fatigué et il tète pas. La mère est en larmes, ce qui ne se fait pas. On ne pleure pas, on devrait être heureuse de mettre au monde un enfant à rien. Et le bébé ne se réveille pas. Et cet enfant qui est magnifique, il faut le préciser, extérieurement, il est superbe ce bébé, ça va être d'une certaine manière un déclencheur pour Helga. Parce qu'il va connaître un sort particulier et qu'elle va s'interroger. Autour de ça.
Oui, donc effectivement, quand il y avait des enfants qui naissaient avec des problèmes, c'était ces enfants étaient euthanasiés.
Il n'y a pas de problème.
Ils étaient envoyés dans des hôpitaux qui s'occupaient d'euthanasier les enfants. Alors comme il s'agissait d'enfants qui naissaient dans un heim du Lebensborn et que c'était incompréhensible pour ces autorités nazies. On commençait par l'étudier sous toutes ses coutures, hein, par l'autopsier, le disséquer, et donc dans tous les cas, il mourait. Et cet enfant dont je parle, alors là, je ne l'ai pas inventé, il porte le même prénom qu'un enfant qui a réellement connu ce sort, et donc le document administratif qui accompagne sa mort, là non plus je n'ai rien inventé, c'est vraiment quelque chose que j'ai repris, au document administratif qui restait.
Et c'est vrai que pour Helga ça va être important. Parce que elle va se poser des questions sur cet enfant, sur ce qui se passe, sur l'enquête qui va être faite après pour trouver une cause précise à la non-conformité de cet enfant. Cette mère, forcément, un parent alcoolique, elle est forcément atteinte de troubles nerveux. Enfin, il faut qu'on trouve une raison pour que cet enfant ne soit pas.
Alors que ses parents sont. Sont parfaits, désirables, tout ce qu'on veut. Comment est-il possible que l'enfant ne le soit pas ? Et donc, il y avait un code. Hein. On ne disait évidemment pas euthanasier, on disait que l'enfant était mort d'infection pulmonaire. Mais donc, c'est un euphémisme qui est en fait un code. Hein. Et ça voulait dire que l'enfant avait été supprimé.
Alors, on ne dévoilera pas ce qui va se passer autour de la mort de cet enfant, mais c'est un des éléments moteurs aussi du roman. Et Helga, à partir de ce moment-là, va quand même se poser des questions, va voir arriver, comme on l'évoquait, les enfants qui viennent des autres heim qui sont évacués. Et elle va se retrouver en position d'assistante du médecin, mais très très vite, elle va être débordée, elle travaille énormément. Et c'est aussi ça qui traduit très bien ce mouvement de fin de guerre qu'on évoquait au début de l'entretien et le fait que tout va basculer. Les événements vont basculer, l'histoire va basculer et cette femme va basculer.
Oui, parce que... Alors je pense que tous les romanciers qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale cherchent en fait à se confronter et à interroger une forme de mal absolu. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est que si on y regarde de plus près, ce qu'on considère comme mal absolu n'a pas été commis forcément ou pas seulement par des monstres. Il y en a eu quelques-uns. C'est la banalité du mal. La grande majorité sont des gens ordinaires, quelquefois d'ailleurs non dénués de sens moral, et qui ne sont pas tout à fait conscients de la portée de leurs actes et qui s'imaginent bien faire. Et chez certains, il y a une prise de conscience, c'est le cas d'Helga qui va commencer à se poser des questions. Chez d'autres, comme mon docteur Ebner, absolument pas imaginé, même 20 ans après la guerre, il est persuadé d'avoir fait le bien. Donc il y a cette expression que je lui reprends, qui est la sienne. Wir haben eine weiße Weste, nous portons. Nous avons la veste blanche. Nous sommes des purs, nous sommes du bon côté. 20 ans après la guerre, il ne doute toujours pas. Hein, parce qu'effectivement, voilà, il y a aussi cette idée, eh bien, on s'est occupé de filles mères dont personne ne voulait, on a bien soigné les enfants, on a bien soigné les femmes. Et surtout, voilà, chez lui, à aucun moment, il n'y a eu de doute sur cette idéologie à laquelle il a participé de manière active.
Alors, on va parler, Caroline de Mulder, à propos donc de La Pouponnière d'Himmler, ce roman paru chez Gallimard, du dernier personnage, qui est très très important parce qu'il vient un peu en contrepoint. C'est ce personnage de Marek, qui lui est le témoin d'une autre réalité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, absolument. Le personnage de Marek, qui est un prisonnier qui détaché du KZ Dachau, donc un prisonnier du camp de Dachau, fait partie d'une équipe de prisonniers chargés de l'entretien du domaine.
Et oui, forcément.
Et c'est par lui que je fais entrer la guerre dans cet havre de paix. C'est par lui que je fais entrer aussi l'image de la mort, des camps de la mort, qui était tout proche, parce qu'on était vraiment pas loin de Dachau dans ce Heim Hochland à Steinhöring. Ce personnage-là me permet de donner le contrepoint, parce que sinon c'était incompréhensible, cette espèce de havre de paix tout à fait extraordinaire en plein milieu de la guerre. J'ai renforcé dans une deuxième version le rôle de ce personnage-là, parce que sinon quelque chose ne fonctionnait pas dans le roman.
Loin dans l'infini s'étendent de grands prés marécageux, pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Dans ce camp morné, sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage, milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit de chaîne, bruit des armes, sentinelle jour et nuit, des cris, des pleurs et des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, sans cesse piocher, piocher. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira, libre alors, ô ma patrie, je dirai, tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous
Et c'est d'autant plus fort qu'on voit que ça passe au débat par les corps et par l'alimentation. On évoquait tout à l'heure l'importance de la nourriture dans le Haïm. Mais c'est vrai que ce personnage de Marek, lui, il crève de faim, il est complètement décharné, il en est réduit à bouffer des épluchures. Son corps n'est que souffrance, parce qu'il va aussi subir des châtiments corporels. Et on a les deux images là qui s'opposent et ça donne une dynamique très très forte.
Oui, effectivement, Marek crevait de faim, comme tous les prisonniers pas loin de là. Et c'était une manière, effectivement, c'est aussi un roman qui parle beaucoup du corps et de la vie physique des uns et des autres, qui est entièrement opposée. D'un côté, on a cette machine à fabriquer de la chair humaine de haute qualité, et de l'autre on est dans cet univers où les gens meurent de faim, de faiblesse, de sous-alimentation,
où on trie également les vêtements de ceux qui ont été exterminés, où on trouve
ça est véridique, effectivement. Les Haïm recevaient des chargements de vêtements, de choses qui venaient de gens supprimés.
En fait,
une vie qui se nourrissait de la mort des autres.
Complètement, complètement. Bien sûr, Marek n'est qu'une ombre pour les autres personnages qui sont présents dans le Haïm. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce livre, Caroline de Mulder, c'est que c'est aussi un livre sur la solitude et sur l'impossibilité à pouvoir se confier ou à pouvoir sortir de cet isolement des personnages. Helga est seule. Elle essaiera de communiquer avec une de ses anciennes camarades de promotion à propos de la mort de ce bébé, mais elle comprendra tout de suite qu'elle doit garder tout pour elle. Renée, n'en parlons pas, elle est dans le plus grand isolement. Elle a perdu son amour allemand, elle a été rejetée par sa famille, rejetée par son pays, elle ne parle pas la langue, elle va se retrouver seule avec son enfant. On ne dira pas ce qui se passera ensuite, mais bon, c'est une grande souffrance. Et puis, Marek, il par définition, il est seul, quoi. Il est seul avec son corps, avec sa souffrance, avec le fait de survivre au quotidien. Donc c'est des histoires très très lourdes en termes justement de poids de la solitude et de perte de contact humain. On n'est plus dans l'humanité.
Oui, dans un univers totalitaire, on ne dit évidemment pas ce qu'on veut. Il faut se surveiller en permanence. C'est particulièrement le cas d'Elga qui se surveille, qui est surveillée, qui sait qu'elle est surveillée. Alors, effectivement, Renée, elle parle à peine la langue, donc elle est isolée déjà de ce point de vue-là. Et puis, Marek, même s'il y a forcément une solidarité entre les prisonniers,
chacun pour soi.
Oui, il est dans un tel état de souffrance et de dénuement que je pense que à un moment donné, il y a plus que la survie qui compte. Hein, c'est aussi le cas quand il va son grand amour, il y pense à peine parce qu'il est complètement submergé par la souffrance physique. Et il s'est fini par s'en rappeler quand il est contraint de rester allongé pendant de longues journées, quand il tombe malade.
Ça s'appelle La pouponnière d'Himmler, c'est de Caroline de Mulder. Donc la guerre va continuer son chemin et ça va donner lieu à des images absolument incroyables qui, alors que c'est un roman et qu'on lit, qui se créent dans notre esprit de tous ces enfants qui arrivent de partout, qui sont... vous avez une force d'évocation, Caroline de Mulder, qui fait qu'on se fait notre film et c'est encore plus terrible.
Oui, merci. Oui, c'est vrai que comme on est par le sujet contraint à une sorte de sobriété, il nous reste malgré tout les images. Les images, on peut encore toujours jouer avec ça, même si on ne peut plus avoir tout ce qui est jeu sur les mots, jeu sur les expressions, il nous reste quand même les images et le rythme à travailler.
Lisez La Pouponnière d'Himmler, c'est paru chez Gallimard, c'est de Caroline de Mulder. Et alors le prochain, parce que des ouvrages tellement différents, vous allez retomber dans le jeu de l'écriture.
Oui, il y a un côté plus exubérant dans le prochain. D'accord. qui va traiter sur le sujet du survivalisme.
Ah, polar ou pas polar? Noir
je
ou
sais
pas,
pas
noir?
Tous mes romans sont un peu noirs et un peu blancs. Pour moi, la distinction, elle est un peu artificielle. Je sais qu'elle est très, très présente en France et dans les maisons d'édition. Mais je ne cherche pas à entrer dans une catégorie ou dans une autre avec mes livres.
Eh ben, j'espère une prochaine fois. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Voilà, on arrive à la fin de ce numéro d'Idéo et Débat. Il y a été question de fleurs, d'enfants, au travers des deux ouvrages de Colette Fellous, Quelques fleurs chez Gallimard, et La Pouponnière d'Himmler de Caroline de Mulder, également chez Gallimard. Vous pouvez lire ces ouvrages, vous pouvez rester à l'écoute de Radio Libertaire, et on se retrouve dans deux semaines pour la chronique de Gérard Guégan, probablement, qui nous parlera de ses choix de lecture. Et puis, nous parlerons de médecine non conventionnelle avec Alexandra Delbeau pour un très passionnant ouvrage qui est paru aux éditions des Arènes. Et dans les émissions suivantes, on retrouvera Jean-Paul Dubois, Véronique Ovadé, en plein de choses passionnantes. D'ici là, portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Quand ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une sorte de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Que vous coupâtes simplement, ou bien de la mort d'un amant. Larme de joie, larme de peine, mystérieuse et tiède fontaine. Coulez, coulez le long des jours, le calme et la paix sont au bout. Les larmes sont comme la musique, fleuve qui roule. Pacifique, tout autour de la terre, les hommes qui pleurent son frère. Les larmes sont internationales.